Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de vous parler ce matin. Ce matin, nous sommes sur le point de voir un thème assez important intitulé « Comment explorer de nouveaux horizons ?» ou « Explorer de nouveaux horizons ?» Nous avons compris une chose dans la vie, c'est que Dieu a des choses importantes pour nous et qu'il est important de pouvoir avoir la bonne attitude et implanter dans son esprit ce qu'il faut afin de pouvoir les avoir et achever notre destinée. Suivez bien ce message, on se revoit tout à l'heure pour pouvoir...
La parole de Dieu, gloire à Dieu. Dis à ton frère, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu.
Tout ce que Dieu fait est bon, dis Amen.
Amen.
Dis-lui tout ce que Dieu fait est bon.
Amen.
Et Dieu a sauvé par son sang précieux. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur, dis Amen.
Amen.
Ce matin, je sens dans mon esprit que Dieu a envie de parler à quelqu'un ici.
Amen.
Alléluia. Matthieu 9, verset 35 à 38. Première lecture.
Verset 35 à 38.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. »
Est-ce qu'on peut répéter cette phrase?
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Est-ce qu'on peut répéter plus fort?
Non. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Alléluia.
Amen.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Amen.
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 Ésaïe 6, verset 8.
Verset 8.
Verset 8.
La Bible dit: J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi.
Est-ce que quelqu'un peut répondre avec la main droite levée, me voici, envoie-moi.
Me voici, envoie-moi.
Dis encore plus fort, me voici, envoie-moi.
Me voici, envoie-moi.
Amen.
Amen.
Merci. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème que nous sommes en train de voir depuis un moment sur explorer de nouveaux horizons. Mais je veux voir un aspect ce matin que je considère assez important. Donc, depuis près de deux mois maintenant, nous parlons de la nécessité d'explorer de nouveaux horizons. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous avons vu plusieurs choses. On a d'abord parlé de la vision, on a parlé de la direction, on a parlé de quoi encore? La bonne attitude. On a parlé dimanche dernier de le pouvoir lui donner. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. La vie joue des tours. Si vous croyez que... Parce que beaucoup de gens se trompent et ils ne réfléchissent pas bien, ils se trompent dans les réflexions. C'est dommage, c'est ça la séduction. Un homme séduit, c'est un homme qui est dans le faux, mais qui est convaincu qu'il est dans le vrai. C'est ça la séduction. Et j'ai compris que ce n'est pas tous ceux qui veulent réussir qui réussissent. Si tu n'as pas la bonne information, tu vas échouer ta vie. Et chaque jour, je me vertue à vous dire, le christianisme n'est pas la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. La religion tue. Les rites et les rituels, ça tue. Alléluia. Aidez la dame. Que Dieu te fortifie, madame. Gloire à Dieu.
La religion tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la religion. Tu vois souvent les gens qui ont des étiquettes, ils disent mon grand-père était éteint, ma grand-mère était éteint, mon grand-père a conçu l'église du village. C'est pas ce qui sauve. Dis ta mère.
Amen.
La religion ne sauve pas. Est-ce qu'on peut dire plus fort, la religion ne sauve pas?
La religion ne sauve pas.
C'est le christianisme qui sauve. Et le christianisme n'est pas la religion. Quelle est la différence entre la religion et le christianisme? La religion, c'est tout ce qui est rituel que les hommes ont mis en place après leur chute pour voir comment toucher Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui a décidé de venir vers l'homme pour le chercher, pour que l'homme soit à son image. Nous, nous sommes dans le christianisme.
Amen.
Nous ne sommes pas dans la religion. On ne fait pas religion ici. C'est pourquoi on ne discute pas religion. Quelqu'un qui pense qu'il est religieux, moi je suis temps, il n'y a pas de temps. Au ciel là-bas, il n'y a pas assemblée de Dieu, il n'y a pas protestant méthodiste, il n'y a pas catholique, il n'y a pas tout ça. Prends la Bible. Si tu me trouves le nom d'une église des hommes, je vais te féliciter. Dis
amen.
Merci. Je vais vraiment te féliciter. Donc je voulais dire aux frères et aux sœurs ce matin, il faut que votre approche des choses spirituelles change. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, venez apprendre. Venez pour une transformation. Venez pour un changement de mentalité. Dites
amen.
Un homme est tel qu'il pense. Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
Et donc, dimanche dernier, on a développé un thème important sur le pouvoir du donner. Mais qu'est-ce qu'on a ressorti comme leçon qu'il faut retenir? La Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à partir de ce texte, nous allons faire une explication très logique et simple. La Bible dit, la lumière est venue. Certains ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu ont en même temps reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je vous ai expliqué que la lumière est venue. D'autres ont refusé la lumière, d'autres ont reçu la lumière. Mais ceux qui ont reçu ont en même temps reçu le pouvoir de devenir. Mais qu'est-ce qui a fait que ceux qui ont reçu ont en même temps obtenu ce pouvoir de devenir? J'ai dit, c'est parce qu'ils ont d'abord donné. Personne ne peut recevoir sans d'abord donner. Parce que pour recevoir, il faut donner sa confiance. Si je reçois tes paroles, ça veut dire que je t'ai donné d'abord ma confiance avant de prendre tes paroles et de les recevoir.
Amen.
Donc, il y a cet acte-là de donner d'abord avant de recevoir. La Bible dit, donnez et il vous sera. Et donc, dans le principe, ce n'est pas recevez et il vous est donné, non. Mais c'est donner et recevoir. Tout le monde dit donner.
Donner.
Recevoir.
Recevoir.
Donner.
Donner.
Recevoir.
Recevoir.
Donc, il n'y a pas de réception sans donner. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Mais lorsqu'on parle de recevoir et donner, il ne faut pas voir l'argent. Parce que les gens voient tout en argent. Frère, je vous dis une chose. Changez votre mentalité de croire que dans les églises évangéliques, les gens sont là, ils n'ont rien à faire, et puis cherchent l'argent. Je vous dis, on a fait autant d'études que vous. On a fait des diplômes universitaires. Il y a des doctorats. Il y a des gens qui ont des PhD, qui ont tous les derniers diplômes, et puis c'est Dieu.
Amen.
Vous changez ta mentalité. Oh, tu veux regarder, c'est pas un mendiant, tu ne sens pas un mendiant. Alléluia. On ne prêche pas, on va manger. On prêche, on va manger. Je dis quoi? Ça dit ce que tu fais là, on peut faire aussi. Parce qu'on a les diplômes pour les faire. Mais si on est là et puis on parle, c'est parce que dans ça là, ce qu'il y a là, c'est la vie.
Amen.
On ne peut pas croire que tu as pitié d'un pasteur quand tu donnes ton offrande, tu donnes ça, tu dis bon, si je donne ça, frère, il ne va pas manger aujourd'hui. Tu te trompes.
Amen.
Non, je veux que les mentalités changent.
Amen.
Ça, c'est un travail.
Amen.
Nous fabriquons les vies, nous changeons les vies, nous arrangeons les vies. Il y a des gens qui ont des maladies, aucun scanner ne peut voir un démon.
Il fait tous les examens, il n'a pas raté. Mais il vient voir le Seigneur, au nom de Jésus, il est guéri. Et vous prenez ça pour jouer. Alléluia. Nous, on ne joue pas avec ce travail parce que c'est un travail de vie.
Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin?
Amen.
Alléluia. Donc, on a dit que donner est ce qui active recevoir. Et que même dans la vie, pour qu'un homme vive, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il inspire et il expire. Donc, l'action d'inspirer, c'est de donner. L'action d'inspirer, c'est de recevoir. Je prends de l'air. Je donne de l'air. Mais regardez, dans le phénomène de la photosynthèse, ceux qui ont fait les sciences naturelles, qu'est-ce qu'il est dit? C'est qu'il est dit que les arbres, les plantes font quoi? Ils fabriquent pour nous de l'oxygène. Et nous, on reçoit l'oxygène. Et quand on expire, on libère le gaz carbonique. Et eux, ils reçoivent le gaz carbonique. Donc, il y a échange. Donc, si toi, tu reçois l'oxygène qu'ils fabriquent, et tu refuses de leur donner leur gaz carbonique, qu'est-ce qui va t'arriver? De la folie. C'est la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le monde, pour que la vie soit maintenue, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait échange. Tout le monde dit échange. Là où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Mais pour qu'il y ait la vie, on donne d'abord et on reçoit ensuite. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est que la Bible dit, ceux qui donnent et qui reçoivent, ne reçoivent pas seulement, mais à leur réception, est accompagné d'un pouvoir de devenir. Donc, on a expliqué que le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir dans la vie, un homme qui veut devenir dans la vie, il est important qu'il comprenne que le véritable pouvoir de devenir est en fait le pouvoir du donner. Et qu'un homme qui n'a pas compris que donner, c'est devenir, c'est un homme qui a échoué sa vie. Parce que les choses les plus importantes qu'il te faut pour devenir, soit avec Dieu, soit avec quelqu'un. Mais comment vas-tu les recevoir si tu ne comprends pas le principe? Voilà pourquoi tu vas remarquer que certaines personnes, on dit souvent, il n'a pas de chance. Ce n'est pas de chance. En fait, il lui manque. C'est-à-dire cette force invisible qui accompagne ceux qui donnent. Quelle force? Il y a une force, je te dis, pour que quelqu'un te dise oui. Il faut que quelque chose l'oblige à devenir.
Amen.
Tu penses qu'on donne comme ça? Non. Pour que quelqu'un te fasse faveur, il faut que quelque chose pousse cette personne à te faire faveur.
Amen.
Mais pour que cette force-là travaille pour toi, il faut que le principe soit activé, le pouvoir de devenir.
Amen.
J'ai dit ici dans la semaine une idée que Dieu m'a donnée. M'a dit, c'était formidable cette idée. Dieu m'a dit quoi? Il m'a dit, ce que tu es, dis ce que je suis. C'est le don que Dieu t'a fait. Donc ce que tu es est le don que Dieu t'a fait, mais ce que tu vas devenir est le don que toi tu vas faire à Dieu.
Amen.
Il faut pas que tu es ce que tu es parce que Dieu t'a fait un don. Il l'a fait le sacrifice. Il t'a établi, tu es ce que tu es. Ça, c'est le don que Dieu t'a fait. Mais ce que tu deviendras dans la vie est le don que toi, tu vas faire à Dieu.
Amen.
Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une part de responsabilité et cette part de responsabilité-là, ta capacité de devenir-là, dépend de toi. Mais tout ça est caché derrière ce pouvoir du donner. Il y a eu beaucoup de choses, on a déjà prêché. Les CD là sont derrière. Je peux voir avec les responsables, ils sont là. Ce matin, nous parlons d'explorer. Tout le monde est exploré. Parce qu'il faut, tu peux pas comprendre que Dieu nous crée et que notre monde soit juste limité à ce que nous voyons. Il y a des choses importantes à faire. Dieu s'attend à ce que, en tant que chrétien, que tu puisses voir des choses exceptionnelles, que ta vie puisse s'étendre, que tes affaires s'étendent, que tes pensées s'étendent, et qu'il y ait des choses exceptionnelles qui arrivent à ta vie. Alléluia. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qualifiés. Dis
amen.
Et ce matin, ce que je veux voir avec toi est important. Voilà, dans Matthieu 9, verset 35, Jésus fait une remarque. La Bible dit Jésus regarde la foule. Et puis il est ému de compassion et il fait une déclaration. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est sur ça que je vais travailler ce matin. Et les Esaïe 6, il dit je cherche quelqu'un. Il dit qui enverrai-je? Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont révéler sa gloire. Et j'espère que tu es là. Personne. Parce que je vous assure, hein, au fur et à mesure qu'on va avancer vers la fin des temps, la foi va baisser. Les gens seront découragés. Les gens, les hommes de foi vont manquer dans nos églises. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 18, vous connaissez la parabole du juge unique. À partir du verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Lis-moi le verset 8. Dans Luc 18, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit?
Luc 18, à partir du verset 8, il avait dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une question. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Ce matin, j'ai envie juste de te parler et de te parler avec mon cœur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et les temps vont être difficiles. Et Jésus demande, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de la foi encore dans les églises? Parce que de plus en plus de personnes sont en train de perdre la foi. De plus en plus de personnes sont en train de perdre leur zèle et leur premier amour. Je vous assure, moi je sais de quoi je parle, je voyage, je vois le monde. Souvent quand je voyage, je suis étonné de voir le besoin qu'il y a dans l'œuvre. On peut être ici en nous, on a l'impression que tout va bien. On dit encore de voir les gens louent trop le Seigneur. Il y a trop d'affaires de Dieu, il y a des veillées partout. Les églises poussent comme des champignons. Les gens peuvent raconter tout. Mes frères, c'est une apparence.
Amen.
Le besoin est immense. Le besoin est immense. Les gens meurent. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 47, plus de 70 personnes qui meurent par jour dans le monde? 70 000. Dans le monde. Non, pas 70 000. Le monde s'en a fini. Par jour, plus de 70 000. Le paludisme tue une personne toutes les 5 secondes. Tu es sérieux? Ah bon? Le paludisme tue une personne toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que là, le temps qu'on finisse là, il y en a qui sont partis. Alléluia. 70 000 personnes par jour. Frère, c'est effrayant. Vous voyez, la situation du monde est chaotique. Et Jésus regarde tout ça et dit, il dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il est ému de compassion. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frère, il fait la remarque que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il insiste sur le fait qu'il y a peu d'ouvriers? Parce qu'en réalité, il y a peu de personnes qualifiées, il y a peu de personnes qui sont décidées à révéler la gloire de Dieu, il y a peu de personnes qui sont dit Seigneur, c'est ton pied et c'est mon pied. Quel que soit ce qui arrivera, j'accomplirai ma destinée et par ma vie, les multitudes seront sauvées. Il y a peu de qualifiés. Dieu cherche des hommes et il ne trouve pas. Malheureusement. Quand vous prenez la Chine et l'Inde, ces deux nations-là seules, il faut prendre la moitié de la population mondiale. Mais allez en Chine et allez en Inde, vous allez voir à quel niveau se trouve le christianisme par rapport, bien sûr, au bouddhisme et à tout ce qui est bizarre. Frère, il y a un besoin. Dis à ton frère, il y a un besoin. Dis-lui avec conviction, il y a un besoin. Ce matin, je veux que tu prennes conscience. Sors de ton petit monde, de ton petit salon qui ne fait même pas 1000 mètres carrés. Qui a un salon qui fait 1000 mètres carrés? Sors de ton petit salon, de ta petite chambre. Tu tournes dedans matin, midi, soir. Et tu crois que la vie s'arrête là. Sors! Tu vois et tu respires. Ça te regarde. Il dit, la poisson est grande, mais il y a plein d'ouvriers. Il y a une grande moisson. Ça, c'est quelque chose de clair. Quand il dit qu'il y a une grande moisson, ça veut dire que la situation du monde est telle que si l'église se lève, l'église peut gagner. Pourquoi? Parce que Satan a perdu. Les hommes et les femmes que vous voyez là, je vous dis une chose, je vous le dis, si je le répète, ce matin je veux que tu m'écoutes. Ce n'est pas parce qu'ils veulent louer Satan, ce n'est pas parce qu'ils aiment aller dans la mosquée. Je vous dis, c'est parce que le Dieu que vous présentez là, ils ne comprennent pas bien votre Dieu. Alors, il y a des gens qui ne veulent plus faire ce qu'ils font. Il y a des gens qui n'ont même plus envie d'aller dans les boîtes, de lui faire boire. Mais ils ne trouvent pas d'autre solution parce que quand ils regardent même les pétières, voilà le vrai problème. Ce n'est pas parce qu'ils sont certains forts. Quel fort? Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Quand il dit la moisson est grande, il sait de quoi il parle. Si l'église, le visage réel de l'église sort, Satan n'est pas match. Acclame Jésus. Il n'y a pas de match. Alléluia. Prêt, on ne peut pas. Qui peut égaler le Dieu que tu sais? Qui peut égaler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Personne. Satan est trop petit, il est petit. Ce qu'il leur propose là, Dieu peut proposer 1000. Soyez Dieu fort. Mais c'est parce qu'en réalité, les gens qui sont censés révéler ce Dieu-là sont en train de dormir, sont en train de regarder à leurs intérêts personnels et partisans.
Amen.
Voilà pourquoi c'est qu'il vous dit, qui en verrai-je? Il y a des champs à explorer, il y a des territoires à gagner, mais il n'y a personne. Tout est prêt, mais il n'y a personne. Ce matin, il faut changer ta mentalité.
Amen.
Change ta façon de voir la vie. Un homme qui vit pour lui est un homme qui a joué. Dites-moi, tous les grands hommes, il n'y a pas un qui a vécu pour lui-même. L'égoïsme est mauvais. Il dit dans mon Seigneur. Deuxième remarque, il dit, il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Qui a décidé ce matin de dire Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Qualifie-moi, Seigneur. Tout est télépartisan. Quand les gens planifient, qu'est-ce que je vais devenir dans 6 mois? Je vais faire mes cours du soir, je vais avoir un master, je vais avoir un PhD, et puis après mon PhD, je entre dans la meilleure banque de Côte d'Ivoire, et puis quand j'entre dans la meilleure banque de Côte d'Ivoire, je vais travailler, je suis directeur d'exploitation, et puis là, chaque vacances, moi, ma femme, et puis mes deux enfants, on est à New York, ou on est à Tampa, ou bien on est à Paris, sur les Champs-Élysées, et puis quand il a fini de calculer sa tête, point, ça vient. J'achète une maison pour ma grand-mère, non, ma mère, après. J'achète une autre maison de retraite quelque part. Tout ce qu'ils font comme calcul, c'est eux et eux. Leur bien-être, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Ce que le monde va devenir, ce que le voisin à côté va devenir, ce n'est pas son. Voilà pourquoi le monde a ce visage. Qui est prêt ce matin? Dis Seigneur, change ma façon de voir. Il y a trop de besoins dans le monde, frères et sœurs. Les gens souffrent. à un moment donné, tu sais, les chrétiens se sont habitués même. C'est les chrétiens se sont tellement familiarisés au monde que aujourd'hui, ce qui se passe ne leur dit plus rien. C'est-à-dire qu'ils regardent la télé, les gens font des mauvaises choses, c'est devenu normal. Je vous dis, le danger, c'est quoi? C'est moi, je préfère un ennemi qui vient vers moi en tant qu'ennemi. Il est plus facile de voir venir un ennemi avec le visage d'un ennemi que de voir venir un ennemi avec le visage d'un ami. C'est compliqué. Quand il te présente comme quelqu'un qui va t'aider alors qu'il est l'ennemi. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe, c'est que l'ennemi a changé de vêtement. L'ennemi a changé de visage et on s'est familiarisé avec l'ennemi de telle sorte qu'on ne sait même plus que c'est l'ennemi.
Amen.
Il se présente comme quelqu'un qui va nous aider. On en a besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on consomme tout ce qui se passe autour de nous comme événement sans discernement. Dis
amen.
On est même habitué. Tu peux regarder les gens faire des bêtises, dire ah, oh, mais vraiment, le monde est gâté. C'est fini pour toi. C'est-à-dire, tu n'as même plus d'inquiétude. C'est-à-dire, même, souvent, même, c'est l'ennemi, si je le ris, quand il y a des mauvais trucs à la télé, venez voir, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ça arrive. Mais les gens n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, Satan est en train de tuer les consciences sur tout ce qui se passe. De telle sorte que maintenant même il y a des chrétiens qui cohabitent avec des homosexuels, s'en foutent, ils disent, bon, dans tous les cas, c'est leur vie. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. On s'entend, on est des amis, je préfère ne pas le gêner. Chacun décide de vivre comme il veut, qu'il vit. Donc il n'y a plus de. C'est-à-dire que ça ne choque plus. Ça me fait plus mal. Quelqu'un peut venir là et qui voit sa femme et puis se marier avec la bonne. Et puis elle dit, ah bon, dans tous les cas, bon, écoutez, si c'est ce qu'il veut faire comme choix, comment on va faire? C'est-à-dire, ça ne choque rien de choc. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le problème c'est quoi? Quand Satan veut te faire avaler quelque chose, il va présenter ça devant toi d'abord. Et puis, à un moment donné, premièrement, la première fois tu es choqué. Après, tu n'es plus choqué. Quand tu arrives à un moment donné où tu n'as plus. Quand on fait ce péché-là, ça ne te dit plus rien. Ça veut dire que tu commences à tolérer. Et tout ce que tu tolères, tu finis par accepter. Et puis, Martin, tu vas faire ça.
Amen.
Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand on parle de divorce dans le monde chrétien, ça ne gêne plus personne. C'est devenu quelque chose de grave. Je vais dire, personne s'en fout. On ne va pas se tuer pour ça. Et donc, les foyers chrétiens, même maintenant, ça va partir de la discussion, n'est pas là. Tu fais juste le divorce. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas vu les deux pasteurs qui ont divorcé là. Tu n'as pas vu le cousin là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa tête? Faut faire, tu vas voir. Non, frère, je vous dis une chose. Dans ce tohu-bohu et dans ce cafouillage, il est important que l'Église garde la tête sur les épaules et sache, et le dit sache, quelle est la ligne de démarcation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir comme pas? Mais si l'Église est dans ce même brouillard, là, frère, on peut s'en sortir. On ne peut pas dire oui, le monde est comme ça. Le monde ne peut pas être comme ça. Si nous avons décidé d'être chrétiens, alors on doit faire les choses comme la Bible nous demande de les faire. Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? C'est important, frère. Jésus dit, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers. Et le peu qu'il y a là, ils ne sont même pas qualifiés. Ils ne sont même pas valables. Conséquence. Peu d'ouvriers mal formés. Conséquence de ces peu d'ouvriers mal formés. Impact sur le monde minimisé. Tout le monde est impact minimisé. Je te pose une question. Toi-même, tu es avec ton ami du lard, musulman, vous êtes là. Dis-moi, est-ce qu'un jour, tu l'as influencé un peu? C'est lui qui est en train de t'influencer. Maintenant, en tant que chrétien, dès le nouveau, tu parles avant. Maintenant, quand tu parles, Inch'Allah. Elle est chrétienne ici. Je ne parle pas de Inch'Allah. Son amène a disparu. Tellement il est influencé. Inch'Allah, on se voit demain. Si tu as dit Inch'Allah, vous savez qu'on lit, hein? Mais c'est pas sérieux, ça. C'est trop sérieux. Ce matin, là, j'ai envie de te parler juste. Parce que c'est devenu trop sérieux. Et souvent, si on ne rappelle pas, on n'amène pas les gens à reprendre conscience, ils se perdent. J'ai choqué le point que tu as dit, Michel. Tu dis, mais là, ça veut dire, ça veut dire simplement. Que ça veut dire, je ne sais pas. Si, si, elle a le vœu. Parce que tu fais une différence. C'est facile. Ils ont parlé Inch'Allah Dieu. Inch'Allah Allah. Inch'Allah. Allah. Inch'Allah. Allah. En fait, je ne veux pas entrer dans les discussions. Si Dieu le veut, de quel Dieu on parle? Parce que c'est très facile de mettre au nom de Dieu. Dieu. De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu? Dis-moi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob?
Non.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Ismaël. Mais celui qui s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui a pour fils Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque nie que Jésus est le fils, il est l'Antichrist. De quel Dieu vous parle? Frère, ça va chauffer aujourd'hui. L'évangile, il n'y a pas de compromission dedans. Tu sais, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Le christianisme, c'est trop difficile. Le christianisme, c'est. Frère, si tu as fait ce choix-là, il faut savoir quel choix tu as fait. Tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus-là. Il y a des implications. Jésus ne tolère pas de mélange. Je ne sais pas. C'est-à-dire cette affaire de religion universelle, on dit oui, tout le monde peut être ensemble. On va être ensemble. Attends, je vous dis une chose, c'est pas de l'extrémisme. Les gens vont être ensemble comment? Et Harris, qui ne lit pas la Bible. Un papa nouveau, qui lit dans mon choix. Et je sais pas, un Deima, qui fait fétiche. Un évangélique qui a sa Bible. Un musulman qui a son Coran. Le Coran dit Jésus n'est pas Dieu. Toi, ta Bible dit Jésus est Dieu. Vous allez vous accorder sur quoi? Un catholique qui est là également. Un bouddhiste qui est là et fait. Livrer leur poitrine pour que le nom de Jésus soit glorifié, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu vas voir que la majorité des gens qui viennent s'asseoir dans nos églises, c'est parce qu'ils savent une chose. C'est dit, ah, les chrétiens évangéliques là, il y a quand même un peu de puissance là-bas. Donc ils viennent parce qu'il y a des sorciers du village qui les poursuivent, ils ne veulent pas mourir. Ou ils viennent parce que bon, ils cherchent un semblant de paix. Donc, il y a des raisons qui poussent les gens à venir à l'église. Mais en réalité, est-ce que ces gens-là ont compris véritablement? Ça, c'est une autre question. Pourquoi Dieu cherche des hommes bénis? Pourquoi il y a si peu d'ouvriers dans l'église? Pourquoi la moisson est grande? Tout est prêt et Dieu n'arrive pas à avoir une percée. Regardez même aujourd'hui les États-Unis, qui est un pays chrétien dans sa constitution. Chrétien, c'est-à-dire les textes ont été fondés sur l'évangile. Leur père ont adoré Dieu. Aujourd'hui, regardez les États-Unis. Le christianisme est en perte de vitesse. Mais elle est là, elle te dit. Le christianisme est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent plus, ils veulent autre chose. C'est-à-dire, après le Dieu de Dieu, on ne voit pas Dieu, on s'en fout. Mais la majorité des Américains, même souvent convertis, en guillemets, dans les églises, c'est juste la forme. Ça dit, c'est une culture. Je suis né chrétien, je vais à l'église avec mes parents dimanche. Donc, c'est plutôt culturel d'être chrétien et d'aller à l'église. Mais peu sont ceux réellement qui ont leur cœur circoncis.
Amen.
C'est pourquoi tu peux voir des pasteurs homosexuels, ils s'en foutent. Tu peux voir des gens qui font des choses, ils s'en foutent. Ils ont fait une émission à la télé une fois, je vous ai expliqué ça ici. Un pasteur qui a fait quoi? Qui, la femme de son diacre, il a payé des gens aux États-Unis pour tuer le mari pour prendre sa femme. C'est une histoire vraie, puisque les gens ont reconstitué l'histoire à la police. Donc, le monsieur que le pasteur allait voir, le tuer à gage, pour payer l'argent pour tuer. Le monsieur, c'est lui qui allait voir le FBI. Ah, l'affaire est trop compliquée. Voilà, on m'a dit ça. Donc, ils ont mis à la place, le jour où on lui a fait le coup, ils ont mis un agent du FBI à la place du monsieur. Et quand le pasteur est venu le monter derrière la 4x4 pour échanger la mallette, il lui dit, bon, ce soir à telle heure, tu fais ça. L'agent du FBI a montré son identité. Il dit, tu es arrivé. Fais rien. Aujourd'hui, regardez les histoires de... Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe comme scandale. Je suis d'accord qu'il y a des scandales, il y a des pasteurs qui ne sont pas bien, il y a des escrocs, il y a plein de choses. Mais regardez même la pédophilie même dans l'église. Je suis d'accord que tu peux chercher une femme. Mais chercher un bébé.
Ah non, tu es malade.
Non mais ça ne va pas. Tu veux dire que ça a dépassé le cadre du péché conventionnel.
Amen. Alléluia.
Donc on vous dit quoi? On vous dit à tous les niveaux, il faut que l'église revienne à la vie.
Amen.
Amen. Première raison que nous pouvons évoquer, il faut que les gens en réalité, ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas prêts à s'engager. Il y a beaucoup de réserves. C'est que la plupart des hommes, en réalité, ne savent même pas pourquoi ils sont nés.
Amen.
Lisons Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Et puis Exode 9, verset 1. Tite 2, 14. Oui, Tite. Vas-y. Oui, vas-y, pasteur.
Il s'est donné lui-même.
Oui.
Il s'est donné lui-même pour nous.
Mm-hmm.
Afin de nous racheter de toute iniquité.
Oui.
Et de se faire un peu qui lui appartient.
Oui.
Purifié par lui et scellé pour les bonnes choses.
Et de se faire un peu qui lui appartient, purifié par lui pour des bonnes choses. Donc on dit Jésus s'est acquis un peuple qu'il a purifié pour des bonnes œuvres. Voilà pourquoi il est mort. Il s'est acquis ce peuple par son sang. Il a purifié ce peuple. Allez mon peuple afin qu'il me serve. C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu s'est descendu, parler à Moïse, discuter, argumenter avec Moïse. Moïse a refusé d'aller. Dieu a donné des contre-argumentations pour casser les argumentations de Moïse. Il dit, Moïse, tu ne peux pas ne pas partir. Il dit, la raison pour laquelle je fais tout ce sacrifice-là, c'est pour que le peuple aille servir son Dieu. Est-ce qu'on peut dire servir Dieu?
Servir Dieu.
La majorité des gens ne savent pas pourquoi ils sont nés. Frère, vous êtes nés pour servir. Vous êtes sauvés pour servir. Si le Seigneur est venu vous chercher, là où vous étiez dans votre péché, ce n'est pas juste parce qu'il avait envie de vous sauver pour que vous continuez à faire comme vous étiez avant. Parce que, attendez, quelle est la différence? Pourquoi Dieu va-t-il te sauver? Et puis, tu vas continuer à être comme avant. Ce serait mieux pour lui te laisser parce que tu étais comme ça avant. Donc, le salut va marquer le commencement d'une nouvelle histoire. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que vous êtes sauvés. Dieu vous a pris. Il a fait de vous des enfants de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de confesser, je suis chrétien. Ça ne veut rien dire être chrétien.
Amen.
Tout le monde est chrétien. Aujourd'hui, partout, les bouddhistes, les mêmes des marabouts, ils sont chrétiens. Parce que c'est devenu la mode. À un moment donné, on dit, ah, si tu dis que tu es chrétien, tu vas avoir un contrat. Parce que maintenant, là, comme le boss lui-même, il est chrétien, tout le monde est chrétien. Donc, c'est devenu une mode à un moment donné. Ce n'est pas une question de mode. Alléluia. Si tu es chrétien, il faut que ta vie témoigne du choix que tu as fait d'être chrétien. Il y a un minimum. Alléluia. Il y a un minimum. Donc, plusieurs personnes ne savent même pas pourquoi elles sont nées. Ils pensent que le papa, je te dis, ta maman a failli t'avorter là. Si ça n'a pas marché, c'est pas pour que tu viennes à Abidjan et puis tu marches. Tu penses que c'est pas PhD. PhD, il y en a qui ont ça et puis ils sont rien. Alléluia. Si Dieu a préservé ta vie, quels que soient les dangers qui t'ont... Tu ne t'es même pas converti. Tu as vu combien de dangers qui t'ont raté. Tu as failli mourir. Les gens ont cherché à te tuer. Ils n'ont pas pu. Tout ça, Dieu l'a fait pour une raison. Il l'a fait pour une raison. Quand il a rencontré Paul, après il a dit à Paul, il dit, voilà pourquoi je t'ai gardé. Bien que tu sois un tueur à gage, tu as tué les chrétiens, tu as persécuté l'église. Mais je t'ai gardé dans tout ça parce que j'avais une mission pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Tu es né pour servir Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Tu es né pour servir Dieu. Tu n'es pas né pour te promener. Tu n'es pas né pour juste faire des diplômes. Parce que je vous dis, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir. Je ne dis pas, je prends la réussite. Encore, je vous veux du bien. Je vois des hommes et des femmes puissants dans cette église, des milliardaires. Dites
Amen.
Et cela va arriver. Dis
Amen.
Oui, parce qu'on ne suit pas Dieu pour être derrière. On suit Dieu pour être devant. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a tout fait. Et quand un homme marche avec lui, naturellement, sans faire d'effort, il progresse. Non, si tu marches avec Dieu, tu vas avancer dans la vie. Je te dis la vérité.
Amen.
Tu ne peux pas être avec Dieu et être derrière. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tous ceux qui ont marché avec lui, il y a des témoignages. Allez lire leur histoire, vous allez voir. Ils étaient bien. Ils ont fini avec Dieu. Ils étaient en haut. C'est ça Dieu, il te prend pas et puis il te lâche au sommet.
Amen.
Mais vous devez comprendre pourquoi vous vivez. Tu n'es pas à Abidjan pour te promener. Tu n'es pas à Abidjan pour marcher. Tu n'es pas à Abidjan pour aller t'asseoir dans une boîte de nuit ici, dans un marquis ici, et puis tu es là, tu penses que c'est la vie. Ah oui, la vie, ça ce n'est pas la vie. Si tu es dans ça, sors.
Amen.
Il y a trop de danger aujourd'hui pour se promener dans des boîtes de nuit, dans des marquis. Il y a des zombies dans le maquis. Des gens, ce n'est pas des hommes. C'est des esprits qui se mélangent chaque soir avec vous. Vous les voyez, des femmes claires comme ça, des yeux bizarres. Vous voyez ces femmes, ça, c'est pas ça.
Amen.
C'est l'esprit des eaux. Vous avez plusieurs fois des témoignages ici. Il y a un jeune qui a dit qu'il avait les dents pour voir la plage. Et puis tout à coup, il a vu deux petits coquillages. Et puis le temps de trouver les coquillages, il a mis des filles. Et puis il était tellement surpris, un chrétien. Il a suivi les deux filles là, elles ont pris un taxi. Il les a suivies jusqu'à être arrivé, elles ont disparu dans la nature. Il allait dans le témoin à l'église. Parce que elles sont prises dans la vie. Ce ne sont pas des envois. Tu fais quoi?
faut travailler. Et les hommes, bien sûr aussi, qui sortent des eaux et qui viennent travailler. Tu vois, le gars, il se maquille. Un garçon qui se maquille, c'est pire, tout ça. Il joue les beaux gosses. Pourquoi? Il a un esprit de piton, un esprit de séduction terrible. Et il est là. Si, il peut te dire, moi je connais un gars comme ça, mais lui, il n'est pas ici, il est à Paris. Il dit, il n'y a pas une femme qui ne peut pas descendre. Il dit, lui, je donne un mois, il dit, descends. C'est que sois ce que tu es. Il dit, tu es femme de quoi? Femme de temps, femme de tutille, femme dans tes 5 mètres de descente. Et il a, et toutes les techniques de séduction, il a appris ça. Il dit, il ne peut pas se marier dans sa vie. Il a des chants de copines comme s'il changeait de chaussettes. Il y a toujours des femmes qui tombent dans le piège. Il est beau, homme, toi il est beau. Mon frère, un homme qui est beau comme ça, qui est seul, il est dangereux. Moi, je ne pas comprendre. Mais je dis, même un homme qui n'est pas marié, qui a 35 ans, 40 ans, s'il vient te voir, pose beaucoup de questions. Tu as 40 ans, tu n'es pas mon mari. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? C'est trop facile. Tu vas voir que c'est un homme de sa vie, il a eu. Il n'arrive pas à s'asseoir avec une femme. Non! C'est pourquoi c'est pas bon. Pourquoi tu es Dieu quand tu es compagnie? Tu fais quoi, même? Je te parle. Tu attends quoi? Ah, c'est comme ça? C'est pas normal. C'est comme une fois, il y a une dame. Ils sont venus me voir. Il y a un homme d'affaires qui est venu là, près de 60 ans. Il a beaucoup d'argent. Mais il est célibataire. Et il voit la soeur, il dit non, lui vraiment, il cherche une femme depuis. S'il a attendu depuis, c'est parce que vraiment, il voulait trouver une bonne femme et tout. C'est ma soeur. Tu vois, le gars, hein, tout ce qu'il a combien. Le gars, tu dis, soeur. Et c'est toi, il a vu maintenant. Oublie. Le pasteur, Dieu a exaucé. Tu sais, les filles, elles allaient partir. On a parlé. Elle dit, pasteur, Dieu m'a exaucé. Puis il prie. C'est dit, ok. Elle s'est dit, ils sont mariés. Mais aujourd'hui, je vous parle. Oh, c'est très bien. Le gars. Il a fait peut-être 2 semaines de vie conjugale. Il a retrouvé ses instincts de célibataire. Il n'est jamais à la maison. Il ne fait jamais rien avec la femme. Il n'a pas son temps. Il a des copines dans tous les coins. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'a pas envie d'être soumis. Il n'a pas envie qu'on le fatigue. Tu n'as pas le droit. Le gars, il est né, il est célibataire dans sa tête. C'est dans son sang. Mais comme on dit, Marie, les parents, il fallait qu'il s'attache à une femme. Il s'attache à la femme. Maintenant, ce qu'il voit, la femme est malheureuse. Pour payer quelque chose de mariage. Il a tout, hein. C'est grave. Elle est pasteur. J'ai envie de me. J'ai dit, porte à toi. Allez chercher une croix. Allez chercher une croix qui n'est pas lourde. Elle est même grosse croix. Elle va peser sur les épaules. Elle n'a pas de choix. Alléluia. Tu es né pour quoi? Il faut que tu comprennes. Que tu n'es pas né juste pour être là. Mais que tu es né parce que tu as des objectifs que tu vas atteindre avec ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Il n'y a personne dans cette salle-là qui est là par hasard. Dieu t'a protégé. Dieu t'a donné la vie parce qu'il y a quelque chose que tu attends de toi. Et cette chose-là, elle est bonne pour toi, mais elle est également bonne pour lui. Frères et sœurs, arrêtez de vivre comme si la vie-là, ça veut dire Dieu vous l'a donné pour vous. Non, vous vivez d'abord pour la gloire de Dieu. Deuxième raison
qui fait, c'est, qui fait que les gens n'arrivent pas véritablement à se qualifier et à s'engager pour être utile entre les mains du maître. J'ai dit la première raison, c'est quoi? Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Tu es né pour servir. Moïse a dit, ce peuple, laisse partir pour qu'ils aillent servir. Il dit, Jésus s'est acquis un peuple pour de bonnes œuvres. Donc il s'est acquis le peuple par son sang afin que ce peuple-là serve. Non pas fasse autre chose. Amen. Deuxième raison. La majorité des chrétiens ou des gens en général ne comprennent pas la notion de grande poisson. Ça, c'est également une raison qui fait que les gens n'arrivent pas à s'engager. Parce que lorsque le maître dit, la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, quelle est cette notion de grande moisson? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous parlons de grande moisson. Alléluia. Nous sommes dans la saison de la grande moisson. Est-ce qu'on peut dire amen? La majorité des gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Saison de grande moisson. Frère, je vais vous expliquer. Tu sais, toute l'église, chez toi à la maison, donc tu investis beaucoup d'argent. Et tu fais tous les maires, service traiteur, tout le monde. Et il n'y a que Madame Diop, Pasteur Yeba qui se lève et qui vient dans la maison te voir. Il dit, ah, ils sont venus pour l'invitation, pour la nourriture. Et s'assoit à ta table. Quel sentiment tu auras alors que tu as fait la nourriture pour 1000 personnes. Et tu as dépensé tout le monde, service traiteur, tout le monde. Et tu as envoyé ta mère et tout le monde pour les recevoir, pour les honorer. Et voilà, deux personnes qui arrivent. Quel sentiment tu auras? Frustré! Frustré de ce que j'ai investi, j'ai tout fait, regarde comment la table est garnie, regarde tout ce que j'ai pas dormi pendant deux jours, j'ai tout fait pour vous et on vous invite, vous ne venez pas. C'est la même chose avec la parabole lorsque Jésus a dit que quelqu'un avait un festin et il a demandé à ce qu'on a cherché. Il a invité des gens très riches et très distingués et ces gens-là se sont excusés. Et il a dit, allez et on remonte tout le monde. Donc il y a la notion de frustration. Donc, la notion de grande moisson, il faut comprendre la notion de grande moisson. Pourquoi Jésus a observé le monde? Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Jésus était en train de faire comprendre aux disciples une seule chose. La moisson est grande. Ça veut dire quoi? Je suis venu afin que la moisson soit grande. Il a payé un prix. Et le prix qu'il s'apprêtait à payer était un prix qui était tellement immense que les bénéfices de ce prix-là, le maximum de personnes doivent en bénéficier. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité. Le Père a payé un prix qui est lourd. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus a été crucifié, le Père a souffert. La Bible dit qu'on a frappé son Fils unique. À un moment donné, la Bible dit que les fenêtres du ciel ont été fermées. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas voir la lourdeur de comment on appelle ça, de la punition. Les anges ont détourné leur regard. La Bible dit qu'il y a eu silence dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le silence des anges. Jamais les anges n'ont fait silence. Mais pour ce jour-là, il y a eu silence. Le ciel a arrêté ses activités. Pourquoi? Parce que le Fils unique était en train d'être maltraité, était en agonie, cherchait du secours et n'avait pas. Alors que un seul ange peut lever le doigt comme ça et le monde disparaît. Donc regarde une frustration. Tu as la capacité, c'est un peu comme si toi, tu as la capacité, tu as la force. Et puis, un petit est en train de frapper ton enfant, on te dit tu ne bouges pas. Tu veux bouger, mais on te dit non, tu ne veux pas bouger, c'est la règle. Tu es frustré parce que tu as ce qu'il faut pour mettre le monsieur hors d'état de lui, mais tu ne peux pas parce qu'il y a une règle de jeu. Imagine la frustration des anges qui ont le pouvoir de détruire et d'anéantir le monde en une seconde. Mais qui regardent ce monde-là et qui voient leur maître en agonie. Qui dit c'est où de l'eau, on lui donne du lait. Pourtant, c'est lui qui a créé l'eau. Donc, un tel sacrifice, tout le monde a payé le prix. Le Père a payé le prix. Quoi? Le prix de la solitude. Le Père a souffert de voir son Fils mourir. Les anges ont payé le prix de voir. C'est-à-dire cette incapacité. Ils étaient incapables de réagir face à la douleur de Jésus. Ils ont été frustrés. Tout le ciel a fait silence. Jésus est mort 3 jours. Maintenant, il ressuscite. Et son œuvre, ce qui va porter l'œuvre pour que le maximum de personnes en bénéficient, ils ont les bras croisés. Quelle frustration pour le faire. Est-ce que vous croyez que Dieu est content aujourd'hui du nombre que vous êtes dans l'église? Même s'il n'y a plus de place assise. J'aurais bien voulu que les gens soient assis dehors. Parce que ces gens-là sont également morts pour Dieu, non? Et Jésus est également mort pour eux, n'est-ce pas? C'est la même chose, c'est le festin. C'est-à-dire, on a fait la nourriture, tu as refusé d'aller chercher les gens pour venir manger. Donc il faut comprendre la notion de grande moisson. La notion de grande moisson, Dieu exige à ce que nous ayons cette notion-là à l'esprit. Ça veut dire quoi? Tout chrétien qui néglige cette notion de grande moisson est un chrétien qui néglige l'œuvre salvatrice de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Ne pas réussir, c'est-à-dire que c'est priver Dieu d'un bonheur. Parce qu'on n'oublie pas que quand un chrétien réussit, Jésus a du bonheur dans le sens où il dit: oui, Père, je t'ai dit que mon œuvre n'était pas vraie. Tu vois? Il a quand même réussi. Quand un autre fait des espoirs, Jésus dit au Père: Père, regarde, ça c'est moi ça. C'est moi qui ai fait ça. Donc, ça dit, son œuvre n'est pas faite. C'est un peu comme tu investis dans la vie d'un enfant. Tu l'envoies à l'école française, dans les meilleures écoles, dans les répétiteurs. Il vient avec son carnet à la maison, il est 49e sur 50. Et puis, papa, vraiment, bon, moi je ne suis pas dernier. Ah non, je ne veux pas te contenter de ça. Je vais dire, écoute, tout ce que je fais, je paie les... Tu vas te plaindre. Donc, quand vous réussissez, quand votre moisson arrive, quand la bénédiction de Dieu vient vers vous, quand vous êtes en bonne santé, le Dieu prend la gloire dans le sens où il a payé le prix pour ça. Amen. Ce n'est pas gratuit. Satan l'a frappé pour ça. Donc, tu n'as pas le droit. C'est pourquoi j'ai dit, frère, tout ce que Satan donnait comme coup à Jésus, à cause de toi, frère, chaque coup là, tu prends sa bénédiction. C'est un seul.
Amen.
C'est pourquoi, tu vois, quand je vois les chrétiens qui ne sont pas zélés, qui n'ont même pas envie d'aller quelque part, ils n'ont pas envie de réussir, je les regarde, mais s'ils ne comprennent pas ce qui arrive, ils ne savent pas pourquoi. Frère, tu n'as pas le droit de ne pas réussir.
Amen.
Tu n'as pas le droit d'être seul. Amen. Tu n'as pas le droit de ne pas être en bonne santé. Pourquoi? Parce que ta santé dans le Père est payée. Donc ne pas prendre, c'est gaspiller des coups. On a frappé le monsieur pour rien. Non, non, mais c'est ce que tu avais me dit, on a frappé Jésus pour rien du tout. Lève la main, toi, dit, je ne laisserai rien tomber. J'accomplirai ma destinée. Tout ce que Dieu a prévu pour moi. Mon argent. Mon mariage, ma bénédiction, mon élévation, ma bonne idée, je possède tout. Ma santé, je possède. Tu n'as pas le droit. Je vois des gens qui se contentent du peu. Il a sa Bible, une grosse Bible, très grosse. Sa chaussure est trouée, son pantalon est délavé. Voilà, Dieu, vous mon frère, c'est le cas, nous on annonce l'évangile. La Bible a fait souffrir sur la terre pour passer. Mais c'est bien d'annoncer l'évangile. Mais annonce l'évangile avec tous les bénéfices qui accompagnent. Tu sais, mon frère, tu n'as pas le droit. Regarde ton frère, on dit tu n'as pas le droit de faire le succès. Je te réclame le succès. Dis-le. Il n'avance pas. Tu veux changer ta voiture, tu ne peux pas parce que le gars n'a pas l'âge. Regarde, je te dis, mon frère, tu sais, je te demande, Jésus là, il est mort pour toi aussi. Non, tu vas le délivrer. Tu n'as pas le droit de ne pas réussir. La moisson, quand on parle de saison de la grande moisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'histoire, ça veut dire le prix a été payé. Non limite.
Amen.
veux, tu peux avoir.
Amen.
Est-ce qu'il y a... faut pas dire amen. Est-ce que tu crois?
Amen.
Comprends. Donc, comme les gens ne comprennent pas le principe de la grande moisson, voilà pourquoi Jésus se plaint. Jésus a fait le lien. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais pourquoi il se plaint parce qu'il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il voit la moisson qui est grande et ce sera gâché pour rien. Et il n'est pas content de voir que la moisson soit grande et qu'il n'y ait pas assez de monde pour en bénéficier ou pour aller cueillir. Donc, il ne serait pas normal. Regardez les voisins autour de vous là. Ils sont mûrs. Je dis, ils sont mûrs.
Amen.
Parce qu'à chaque fois que le monde, les problèmes viennent sur leur tête, ils cherchent une solution et ne trouvent pas là. Ils ne viennent plus. Tu rentres comme ça, tu les cueilles.
Amen.
Mais comme les gens ne comprennent pas la notion de grande moisson, mais le problème c'est que ce n'est pas facultatif. Parce que beaucoup de gens pensent que aller gagner une âme est facultatif. Paul a dit quoi? Il dit la nécessité évangéliser. Est important pour moi, il dit la nécessité m'en est imposée. Il dit c'est une nécessité pour moi d'évangéliser. Quelque chose qui est nécessaire, mais pas facultatif.
Amen.
Ne pas parler de Jésus à quelqu'un là. J'ai dit, tu vas être surpris quand Dieu va te demander au dernier jour, va te montrer le film de ta vie pour te dire il y avait tel homme que j'ai positionné à côté de toi pour que tu lui parles parce qu'il était mûr. Et tu as dit non, bon, j'ai pas trouvé nécessaire. Il va te dire non. Son sang là, on te le demande. Et tu vas voir que si on te demande le sang de plusieurs, à la fin, ta récompense est finie. Parce que chaque sang qu'on te demande, c'est une partie de ta récompense qui part. Et je vous dis, ne jouez pas, c'est pas comme si on va te tuer. Mais il y a des choses, par exemple, si tu as reçu une récompense comme ça, maintenant on commence. Il y a lui qui devait être sauvé, il ne l'a pas sauvé. Donc, récompense la moitié est partie. Tu vas te retrouver avec rien du tout au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sang qu'on t'a demandé. Il dit évangéliser, la nécessité m'en est imposée. Tu n'as pas le droit de ne pas aller chercher les gens, de ne pas aller parler aux gens, de voir les gens souffrir à côté de toi et tu fermes ta porte. Tu vois une maison à côté, matin, midi, soir, les gens font pas là-bas, ils se frappent, papa, monsieur crie, imbécile, on casse les mains, tu es dans ta chambre, tu dis, vraiment les voisins là, ils sont tous les temps de lui par la femme, elle est bizarre. Et tu ne prends jamais sur toi le temps d'aller taper la porte un jour. Et puis on te dit, bonjour madame, je veux vous parler. Je veux discuter avec vous. Et leur présenter ton Jésus. Après avoir jeûné et prié pour eux.
Amen.
C'est trop fort pour moi. Mon foutu la vient de rater ça à cause de ces gens-là. On va voulu parler en fait, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que Dieu t'a mis à côté de lui. Amen. Alléluia. Le fait, nous sommes tellement liés qu'il n'y a pas de hasard. Je vous dis, on est trop liés. Il n'y a pas de hasard, nous sommes trop liés. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un, il attend de toi quelque chose. Les gens s'en foutent. Non, ils s'en foutent. Cette vie individuelle là, individualisme que tu vis là, il faut arrêter. Ça, c'est pour les gens du monde, pas pour l'église. La grande mission. Troisième raison. Tu dois non seulement provoquer cette moisson, alléluia. La troisième raison, c'est quoi? Qui fait que les gens n'arrivent pas à se qualifier, n'arrivent pas à se disposer pour que Dieu les utilise efficacement, c'est la nature égoïste humaine. 2 Corinthiens 5, verset 14. Les hommes sont naturellement égoïstes. Lisons 2 Corinthiens. C'est le 14.
2 Corinthiens 5, verset 14. La Bible dit: car l'amour de Christ nous presse.
Mm-hmm.
Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, mm-hmm, tous donc sont morts.
Et l'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire, tu ne dois pas être égoïste. L'amour de Christ nous presse. À faire quoi? Il dit à aller vers les autres. Mais les hommes sont naturellement quoi? Égoïstes. Et c'est cet égoïsme-là qui fait que les gens sont dans la maison. Les gens n'ont pas envie de. Même à l'église. Appelle, il sert le Seigneur. Quand on dit engage-toi, je ne veux pas qu'on me fatigue. Je n'ai pas envie que les gens parlent sur moi. C'est tout simplement l'égoïsme. Parce que quoi, les gens aiment le savoir. Les gens aiment recevoir. Les gens aiment recevoir. Et je vous ai dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc un homme qui n'a pas appris à donner et qui passe son temps à recevoir, l'égoïsme, tout c'est lui. On ne m'a pas fait ça à l'église. On ne m'a pas donné. On ne m'a pas fait. Pourquoi? La nature égoïste, humaine. Les gens veulent que tout soit vers eux et puis eux, ils ne font rien. Les hommes sont naturellement égoïstes. Voilà pourquoi ils ont du mal à s'engager, à se qualifier. Mais Dieu cherche des hommes qui sont morts à eux-mêmes et qui pensent aux autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Ne sois pas égoïste. Sois source de bénédiction. Le jour où tu arrêtes et tu penses à toi seul, tu coupes la bénédiction. Voilà pourquoi la plupart des gens ne s'en sortent pas. Parce que tu attends quelque chose de Dieu, Dieu attend que toi tu aides quelqu'un. Mais comme tu es égoïste et tu es limité à toi, 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 seul, toi, ta femme, tes enfants, seul, toi, ta maison, ta richesse, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie seul? Et c'est ça qui te hante tous les jours. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que l'église devient, c'est que le projet de l'église devient, c'est pas ton problème. Tu viens, tu vois, il paraît que ça va, ok, que Dieu les bénisse. Mais comment peux-tu recevoir? Mais bien sûr, Dieu ne te donnera pas pour toi, je le dis, toi, ce que tu cherches. Si tu n'as pas pris ta pensée à ce qui lui tient à cœur. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre? Qu'est-ce que vous faites? Quel est l'engagement de ton cœur vis-à-vis de l'œuvre? Mais quand tu vois les gens venir à l'église, tu le sens. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent à 10h. Ils viennent en retard. Ils sont assis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a à foutre de venir à l'heure à l'église? Les autres sont à venir et remplir les chaises. Lui, il vient quand il veut. Il marche quand il veut. Ils ne sont pas pressés. Ils s'en foutent. Mais si c'est leur contrat personnel, ils sont à l'heure. On dit que parce que le contrat a mis à 10h, il est déjà là. Non. On dit pourquoi il n'est pas là, non, je tourne. Tu tournes à 10h. Tu n'as pas mal au pied, il dit non. Pourquoi? C'est pour lui. Mais venir s'asseoir à l'église à l'heure, alors que Dieu l'attend à 9h, les anges sont déjà là. Pourquoi il va venir? Ça, c'est une affaire collective, mais il n'a pas le temps. Donc vous voyez que l'égoïsme des hommes. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas, Dieu cherche des hommes, il ne trouve pas. Et ce matin, je voulais te challenger. Change ton cœur. On parle de Mandela. C'est parce qu'ils n'ont pas pensé à eux. Est-ce que vous savez que Mandela, il dit quel poste on ne lui a pas proposé pour se taire. Les blancs lui ont dit, écoute, arrête cette affaire de ANC, tu veux, nous on va te faire ça. Il a dit non. Il dit non. À un moment donné, il paraît qu'en prison, on lui a dit, écoute, si tu veux, tu renonces à ta lutte, tu sors. Il dit, si je sors, les autres sortent. Si je ne peux pas sortir avec les autres, moi je reste. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Tout le monde l'adule. Il est venu à la coupe, à la finale, là, mais les gens acclamaient. Pourquoi? Je vous ai dit que le sacrifice communique un aura. Un homme qui n'a pas payé le prix n'a pas cette aura, n'a pas cette force qui l'accompagne. Tu seras un homme ordinaire jusqu'à ce que tu payes le prix. Tu deviendras un homme surnaturel. Ce n'est pas le costume qui fait un homme ordinaire. Amen. Tu seras un homme extraordinaire. Ce n'est pas l'argent qui rend un homme extraordinaire. C'est des gens qui ont tout. Ils sont naturels et ordinaires. Qui veut un homme extraordinaire, c'est le prix qu'il est prêt à payer. Et que le commun des mortels n'a pas encore payé. Il t'appelle très fort. Il t'appelle très fort. C'est pourquoi, si vous voulez aller loin dans la vie, arrêtez de penser à vous et payez le prix là où les autres n'ont pas payé. Vous allez les diriger.
Amen.
Tu sais, tu ne peux pas diriger quelqu'un alors que tu n'as pas fait plus que lui. Comme tu vas lui dire quoi alors que toi-même, tu se lèves quand tu dors. L'égoïsme. On est trop individualiste, on est trop égoïste, on ne pense trop à nous. Les chrétiens pensent à eux, les gens sont là, ah ma maison, est-ce que ça brûle chez moi, non? Dès le voisin, ils sont. Voilà pourquoi dans l'église, souvent les gens ont du mal, ça se critique, quoi. Mais c'est l'égoïsme, les gens. Laissez les gens tranquilles. Aimez-les. La Bible dit que tu dois dire à ton frère si c'est l'amour. Aime ton frère, point. Son passé là, ça ne te regarde pas. Quoi ton problème, Dieu? Si tu es Saint-Gabriel, que Dieu te bénisse.
Amen.
Mais laisse-le que tu passes Saint-Gabriel, ils vont devenir. À l'église, on ne condamne personne. chacun sa place avec Dieu. Mais ce qu'on vous demande simplement, c'est d'avoir un cœur ouvert, un cœur pour Dieu, un cœur engagé pour Dieu. Dieu va vous défendre, Dieu va vous aider. Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits, Dieu cherche des gens qui ont un cœur pour lui. C'est ça! Dieu cherche des gens qui ont un cœur pour lui. Qui dit, Seigneur, c'est toi que je cherche. Je me donne à toi, ma vie c'est pour toi. Qui pense aux autres. Qui sont prêts à investir pour les autres. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
L'égoïsme n'est pas une bonne chose. Quatrième raison qui fait que les gens n'arrivent pas à véritablement être qualifiés. C'est ce qu'on appelle le manque de zèle et de foi. J'ai parlé de Luc 18 tout à l'heure, verset 8. Le manque de zèle. Le manque de zèle et de foi. La Bible dit dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se dit amen. Ce que nous faisons. Je prie que Dieu t'épargne. Tu sais, c'est terrible d'avoir aimé Dieu et d'abandonner la foi. C'est terrible d'avoir fait des espoirs avec Dieu et de se trouver à un point où tu dis, hein, avant la fin, je prie comme ça, avec ça, c'est tout. Dieu exauce en même temps. Avant la fin, je parle comme ça, le feu descend. Mais avant, tu parles dans le passé. Et maintenant, tu as perdu ton premier amour. Moi, là, avant, je me lève à 4 heures. Je prie jusqu'à. Et maintenant, je me lève à 11 heures. Avant, j'étais guéri de prière. Tout réveillé, je suis là, je prie. Et maintenant. Avant, j'aimais l'assemblée des saints. Et maintenant. L'assemblée des saints ne m'attire plus. Pourquoi? Dans les temps de la fête, l'amour de plusieurs se. Les gens vont de moins en moins venir à l'église. Les gens vont de moins en moins aimer la présence des frères. Paul dit, Démas a abandonné la foi et a abandonné la santé des frères. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans ce monde qui tendent à nous éloigner de Dieu. Regardez aujourd'hui, tout a quitté les cinémas pour venir dans nos télévisions. Ils ont fait ce qu'on appelle le package. C'est-à-dire ils ont changé l'emballage du produit. Il n'y a pas un monde où il y a autant de tentations que dans ce monde plus présent. Tu n'es pas d'accord avec moi? L'amour de plusieurs. Et quand la Bible dit l'amour de plusieurs va se répandre, quand Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Jésus parle en conséquence. C'est-à-dire cette prophétie. Il a vu la fin. Moi, je voyais une soeur qui me disait, oh, parce que trop de prière, toujours église. Non, mais frère, c'est ça. Il faut que bien toujours prière, toujours église. Parce qu'un chrétien, c'est quoi? C'est manger, aller travailler, dormir, aller à l'église. Prier, entrer. Aller à l'église, prier, entrer. Aller à l'église, prier, entrer. Mais pourquoi tu te plais parce que toujours tu vas à l'église, toujours tu vas, tu pries, toujours tu. C'est normal. Regardez aujourd'hui, le cœur de l'homme, il va comment? Il fait. Boum, 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 boum. Si tu vis 100 ans, pendant 100 ans, il est là. Boum. Le juif fait boum, boum. On le tape. Il revient là. Boum, boum. Quand il fait boum. Pourquoi? Parce que il faut qu'il garde le rythme, la constance, la routine pour assurer la vie. Donc, on va voir que dans la vie, et parce qu'il y a deux choses que je veux t'expliquer là. Tu sais, quand on parle de routine, pour que l'homme vive, il y a souvent nécessité de routine. Il y a souvent nécessité de routine. Mais pas la routine dans les actes, mais la routine dans le principe. Je ne sais pas si tu suis. Parce que si le cœur de l'homme ne va pas comme ça là, il va mourir. Il y a d'autres exemples. Donc tu ne peux pas me dire que prier toujours, aller à l'église, là, je suis fatigué. Tu ne peux pas être fatigué parce que c'est ça également ton battement spirituel. Le cœur, ton cœur, ta vie spirituelle là, le cœur là, c'est ta vie spirituelle. Tu es un chrétien, être spirituel, le cœur, c'est ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Et cette vie spirituelle-là, c'est faire de prier, venir à l'église. Prier, venir à l'église. Écoutez mes messages, prier, venir à l'église. Toujours les mêmes choses. Tu peux lire la Bible, prier, venir à l'église. Lire, même si tu lis ça 1000 fois, tu dois faire ça tous les jours. Parce que si tu arrêtes, tu es mort.
Amen. Amen.
Est-ce que le cœur peut dire, moi je suis parti aujourd'hui, là, quand même, donnez-moi 2 secondes, je vais m'arrêter un peu. La vie physique va partir. Donc, frère, le fait de venir à l'église, de chanter, de prier, ne doit jamais vous lasser. Vous devez toujours à l'église, toujours à la prière, toujours en train d'écouter la Bible, toujours en train de lire. Parce que c'est ça votre vie.
Amen.
Il n'y a pas autre chose. Et ça, elle doit être constante. Et elle doit aller toujours au même niveau. On doit faire ça tous les jours. Tous les jours, sans jamais se lasser. Sans jamais se lasser. Mais malheureusement, dans les temps de la fête, ce que Satan recherche, c'est quoi? C'est de couper le rythme, casser le rythme. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était bien zélé dans l'église, qui venait toujours aux prières, qui était toujours là aux jeunes. À un moment donné, il dit, pasteur, je vais prendre un peu de recul. Recul pourquoi? Il dit, non, non, je sens, je suis fatigué. Toujours c'est la même chose, je ne sais pas, mais je sens plus, j'ai envie de changer. Changer quoi? La Bible, tu ne peux plus lire la Bible. Même la Bible, souvent, il lit. Je compte Matthieu, là, je lis du jamais Matthieu. C'est toujours la même chose. Mais le frère, quand tu lis là, tu comprends? Quelqu'un va t'expliquer le même verset. Il dit, ah, il y a des choses dedans. Nous, là, sinon, on est fatigué à l'entendre. Parce que chaque fois avant de venir ici, là, on a envie de lire le même verset. De lire le même verset. De lire même jeunesse, là. Mais à chaque fois que tu lis, Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. De lui, Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Je dis, la connaissance de Dieu est comme un puissant fond.
Amen.
On ne se lasse pas. Pasteur, je suis un peu fatigué. J'ai besoin de congé, pasteur. Souvent, à Paris, l'été comme ça, les églises se vident. Le pasteur me dit souvent, si tu veux venir, il ne faut pas venir l'été, on va faire le programme là après. Je dis, mais pourquoi? Il y a des églises qui mettent fermé pour cause de congé. Tout le monde va en congé. On va décompresser un peu parce que la fête de Dieu, là. Il y a congé dans la fête de Dieu. Congé. Il faut donner congé à ton cœur. Ou bien ne mange pas, ne respire pas. C'est le même fait. La routine à ce niveau-là, maintient la vie. Tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne. Et puis, je manque de zèle, je suis refroidi. Si tu es refroidi ce matin, on va te réchauffer.
Amen.
Parce que je vois les visages, je vois les gens comme qui les visages qui cherchent. Tu cherches quoi? C'est la même chose. Même regardez même les hommes. Chaque année, c'est les mêmes vacances. Été arrive, on fait le même bruit. Noël va venir, c'est le même bruit qu'on va faire. Noël va passer, on va rentrer à janvier, on va faire le même bruit. Pâques va venir, on va faire le même bruit. C'est comme ça. Il y a des choses, c'est comme ça. La vie est pleine de routines. Mais il y a des routines qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas accélérer ou diminuer parce que c'est le rythme-là qui maintient la vie. Constant. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui part, la persévérance a bien fait. Dis à ton frère, persévère.
Persévère.
Dans la prière.
Dans le jeûne.
Dans la lecture de la Bible. Et d'en venir à l'église. Ne sois jamais fatigué. Continuez à chanter. Continuez à chanter. Chantez, chantez toujours. Le principe ne doit pas changer. Les cantiques peuvent changer, il peut y avoir des cantiques nouveaux. Mais le principe, chantez toujours. Louez toujours. Glorifiez toujours. Priez toujours. Soyez là toujours. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, viens à l'église. Ça fait partie de ton mode de vie. Qui va pas au travail ici? Tout le monde va au travail, ceux qui travaillent, non? Quand tu vas pas, c'est que vraiment tu es malade. Pourquoi tu vas? Il y a ton antiquité là-bas, non? Tu te plais parce que tu vas au travail tous les jours? Tu te plais pas? Il y a ton antiquité là-bas, c'est là-bas où on te paye. Il y a ton intérêt. Quelqu'un qui vient à l'église tout le jour, c'est parce qu'il y a son intérêt dedans. Il y a Dieu dedans. Il a trouvé la vie dedans. Il a trouvé le bonheur dedans. C'est normal. On termine. le manque de zèle. Quatrième raison, c'est ça, non? Les gens ont perdu la foi. Alléluia. La foi est quelque chose d'essentiel. Je vais juste dire un truc pour aller au dernier point pour appuyer. La foi est quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous savez que la Bible dit que le monde a été fait par la parole. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Ça veut dire quoi? Si la parole a tout fait, alors il n'y a rien que tu peux vouloir qui ne viendra par la parole. Parce qu'au commencement, tout ce que vous pouvez voir est venu par la parole. Donc la parole est à l'origine de tout. Et si la parole est à l'origine de tout, alors il n'y a rien qu'un homme peut désirer dans sa vie qui ne vienne par la parole. Tu veux une voiture, la parole peut t'en donner. Tu veux une femme, la parole peut t'en donner. Tu veux un bonheur, la parole peut t'en donner. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Tout ce que tu peux me citer, y compris toi-même, la parole peut t'en donner. Tout est venu par la parole. Tout est sorti de la parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Dieu dit. Donc, la parole est à l'origine de la création. Donc, quel que soit le niveau social que tu veux, quel que soit le bonheur que tu veux, il faut revenir à ce qui a tout fait au commencement. Quel que soit ce que le diable fait comme pression sur ta vie, je suis venu te dire ce matin.
Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il n'y applique pas ton intelligence.
Écoutez bien, dit ne te tourmente pas pour t'enrichir. C'est la Bible. Hein? Et elle n'y applique pas ton quoi?
Intelligence.
Ton intelligence. C'est la Bible, elle lit extraordinaire. Vas-y, lis.
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître?
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est une question.
Car la richesse se fait des ailes.
La richesse se fait des ailes.
Et comme l'aigle, elle prend le vol.
Elle prend le vol.
Vers les cieux.
Vers les cieux. Ça, c'est une distraction. Aujourd'hui, l'évangile est en train d'avoir de sérieux problèmes. Pourquoi? Tu vas arriver dans certaines églises, 30 jours sur 30 jours, 365 jours sur 365 jours. Tu es béni. Dieu va te donner l'argent. Merci pour prospérer. L'argent. Comment devenir riche? Comment devenir riche et toi seul? Comment devenir riche? Donc, ce qui n'est pas mauvais, mais tout ce qui n'est pas équilibré est bancal. C'est tout simplement ce que je veux dire. Ça veut dire, on peut prêcher sur la prospérité. Mais il faut équilibrer l'évangile de telle sorte que, quand les gens ont compris qu'ils doivent prospérer, ils doivent avoir l'argent, ils doivent rouler dans les belles voitures, grosse hameur, lui seul, 20-25. C'est-à-dire, l'essence latin, il met pour 20 000, qui fait boum, et puis il s'en va à la station. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Tant qu'il en a, avoir avion, tout ça, avoir 1000 voitures, et puis, matin, quand tu veux sortir, tu ne sais pas quelle voiture choisir. C'est bon! Et c'est ce que Dieu veut. Mais à côté de ça, il faut équilibrer l'évangile pour pouvoir comprendre aux gens que ça, ce n'est pas tout. Parce qu'un homme ne peut pas avoir le bonheur avec le matériel. Je vous le dis, l'argent ne peut pas satisfaire le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il y a des milliardaires qui se suicident.
Amen.
Mais ce qui satisfait le cœur de l'homme, ou ce qui fait que l'argent satisfait le cœur de l'homme, c'est quand Dieu est derrière l'argent. C'est un homme qui a trouvé Dieu qui pourra comprendre et bénéficier de l'argent. Un homme qui n'a pas trouvé Dieu ne peut pas être satisfait par l'argent. L'argent va le détruire. Donc il faut amener les gens d'avoir trouvé Dieu, à connaître Dieu, à saisir Dieu. Quand Dieu est entré dans leur cœur, ils sauront comment gérer l'argent, bénéficier de l'argent et avancer avec l'argent. Sinon, tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donne-lui l'argent, tu vas voir. L'argent va le tuer. On a vu des jeunes artistes ici, là. Dès qu'ils ont chanté une cassette, ils ont eu du succès, ils sont morts après. Pourquoi? Parce que la richesse et la gloire de ce monde les a étouffés. Aujourd'hui, on sait où ils sont maintenant. Les artistes que Dieu, tu sais que Dieu les a bénis. Dieu a mis le talent dans leur cœur. Une seule gloire
les a cassés.
Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas assis en eux. Donc ce que Dieu veut, c'est de s'asseoir d'abord en vous et puis vous bénir. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. C'est vrai. Il dit, veux-tu poursuivre quoi? Vas-y rapidement. Ce qui va disparaître.
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître?
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Il dit donc, c'est pas la peine de poursuivre du regard quelque chose qui va disparaître. Toi tu dis oui.
Car la richesse se fait des ailes.
La richesse se fait des ailes, frère. La richesse se fait des ailes. Je ne suis pas contre la richesse parce que Dieu va t'en donner. Dis amen. Mais tu vois, ce n'est pas la priorité. Parce qu'il y a des priorités. Et le diable, là où il y a la distraction satanique, c'est quoi? Et qui fait que les gens n'arrivent pas véritablement à être utilisés par Dieu pour glorifier son nom et impacter leur génération, c'est que les hommes sont de plus en plus distraits par ou hantés par l'idée de devenir riche et de devenir quelqu'un.
Amen.
Donc tous les gens veulent vivre. Même le pasteur, même le petit pasteur, dès qu'il comprend Matthieu 2, Matthieu 3, il comprend Genèse, il cherche une veste, il va voir un gars, après il a une veste quoi, parce qu'on est serré quand on est dit, et puis commence, l'Esprit de Dieu est là. Il va et trouver un gars au bord de la route, là il vend des montres qui brillent là, il prend une montre, il monte, c'est pas oh, c'est je veux un truc brillant qui est dessus, et puis là il dit, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer qu'il est devenu quelqu'un. Et puis, deux semaines après, il prend un crédit quelque part. Il demande un frère dans l'église, il prend une voiture. Il dit oui, lui aussi il est béni. Et il est obsédé par ça. J'ai une voiture. J'ai ça. Et il est obsédé de devenir et d'avoir un nom. Frère, ce n'est pas ça d'abord le plus important. Ce n'est pas ça d'abord le plus important. Ce n'est pas ça d'abord. Frère, tu sais, on ne devient pas conservateur. Moi, je dis toujours, tu sais. Quand tu as pris le temps et que ta partie t'a formé, tu deviens du miel pour l'humanité. Un don pour l'humanité. Frère, demande, moi, dans toutes les nations, partout où je passe, tu sais, je dis et je le remercie Dieu pour ça. Dieu a pris le temps de me partir.
Amen.
Il n'y a pas quelque chose, un sujet. Je dis, tu viens ici, tu n'es rien. Je te parle pendant 6 mois, ta vie change.
Amen.
Parce que j'ai un dépôt qui n'a pas de fond.
Amen. Amen.
Agile, tu peux croire, tu ne peux pas croire. Tu sais, c'est pas ça qui est important. Partout où je passe, Dieu fait un chemin. Qui que ce soit, je pèse un mot, qui que ce soit. Vous dites quoi? C'est le plus important, c'est d'abord Dieu. Connaître Dieu, rencontrer Dieu, changer. Mais il ne faut pas être pressé. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens prématurés qui sont sortis. Et c'est sûr maintenant, les gens qui expérimentent, font l'expérimentation sur les fidèles. Et ils ont blessé plein de fidèles. Pourquoi? Ils ne connaissent pas bien la vie. Ils disent, mon frère, jeune. Donc, quelle maladie, jeune? La foi est là. Jeune. Il ne comprend même pas comment la foi opère. Il dit, non. Laisse le médicament, Dieu est avec toi, Dieu a décidé de pouvoir, il comprend. Donc il expérimente. Et donc, de 15 ans de ministère, il a tellement créé des problèmes, il a fini également, bien sûr, par apprendre, par expérience, certaines choses. Mais le temps de devenir bien là, il a fait trop de dégâts. Pourquoi ne pas prendre le temps comme Jésus qui a fait 30 ans de formation pour 3 ans de ministère seulement?
Amen.
Et les gens pour 3 ans de formation, 30 ans de ministère. C'est pas normal.
Amen.
Je vais vous dire la vérité. Parce que les gens me posent souvent cette question. Je vais vous dire, voilà, l'une des raisons pour lesquelles mes pasteurs que vous voyez là, je les maintiens là où ils sont. Pas parce qu'ils m'ont rien à dire, c'est des hommes de Dieu très puissants.
Amen.
Mais je les sors au fur et à mesure. Parce que j'ai la responsabilité de leur formation. Je ne veux pas qu'ils soient légers.
Amen. Amen.
Je suis lourd. Ils sont lourds. Vous les voyez. J'ai dit, quand ils sortent ici,
amen.
Tu ne peux pas croire. J'ai dit, tu vas te demander, mais celui-là, il peut, mais ce n'est pas un petit gars. Mais ils sont lourds. Vous les voyez comme ça, ils sont très lourds.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Mais je suis peut-être exigeant parce que je sais ce qui est bon pour eux.
Amen.
Demain, ils vont dire, gloire à Dieu. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de laisser Dieu vous remplir.
Amen.
Satan distrait aujourd'hui plein de distractions. Plein de distractions. Les gens veulent faire ça. Ah, ils veulent comme ça. Oh, tu as dit, oh. Le pasteur me dit, le président, deux, vingt ans, il y a plein de trucs, chacun est pressé, tout le monde est chaud. Et il dit, Satan distrait les gens sur l'essentiel. L'essentiel, on laisse et on passe à tout ce qui n'est pas essentiel. Ça ne doit pas être notre cas. Dis
amen.
Dis au nom de Jésus, je chasse la distraction.
Au nom de Jésus,
alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
La distraction des vacances. Jeune sœur, les vacances ne veut pas dire sortir un garçon. Parce qu'il y a des gens, quand il y a vacances, ils ont envie de s'amuser. Automatiquement, vacances veut dire amusement. Non. C'est se reposer. Et continuer à mieux chercher Dieu. Tout le monde dit vacances. La distraction satanique. 2 Corinthiens 2, verset 11. Lisons ça.
2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
Amen. Faut pas laisser l'avantage à Satan. Tu sais ses desseins. Tu sais ce qu'il cherche. Tu sais ce qu'il cherche, c'est de te détruire. Satan ne t'aime pas. Si quelqu'un te dit le diable t'aime, il ment. Là, tu dis aux gens souvent, faites ça, il y a un pasteur, vous êtes du pasteur. Pasteur, laisse-nous, pasteur. Non, le diable ne vous aime pas, le diable veut vous détruire. Le diable veut froidir ton amour, ton premier amour. Le diable veut que tu pries 6 heures, maintenant que tu pries 2 heures. Le diable voulait que tu viennes à l'église. Avant, tu venais à l'église le dimanche et mardi en semaine. Maintenant, tu ne viens plus le mardi. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé par le monde. Par ce que tu vas manger, par ce que tu vas faire. Satan veut ça. Te diminuer. Diminuer ton potentiel spirituel pour ta part. Il faut que tu reviennes à ton premier amour. Dis à ton frère, dis-lui, frère, s'il te plaît, reviens à ton premier amour. Il y a une prise de conscience que nous tous on va avoir à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il faut que je continue? Parce qu'un chrétien normal, à un moment donné, même quand il commet une erreur, il s'assoit et puis il dit, mais est-ce qu'il faut continuer dans ça? Et puis lui-même, il répond non, puis il arrête.
Amen.
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 Dieu te veut du bien. Satan veut te distraire. Refuse la distraction. Dis, je refuse la distraction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être heureux, il ne faut pas être bien avec tout le monde. Tu dois être heureux, mais tout en gardant la concentration sur l'essentiel, ta foi chrétienne, ta vie chrétienne. On ne peut pas me voler ce que j'ai d'essentiel, l'amour que j'ai pour Dieu, ma concentration, mon amour, ma présence à l'église, ma présence dans l'œuvre et le travail que je fais. Même s'il y a un manque, je ne dois pas rester le temps bien, le manque. Oh, qu'est-ce que j'ai? Mon manque, non. Concentre-toi sur Dieu, le manque sera pourvu. Je termine avec un sixième point, c'est les gens ignorent les récompenses. On a vu des raisons pour lesquelles ils refusent de s'engager. Parce qu'ils ignorent que derrière tout engagement, il y a une récompense. On ne s'engage pas avec Dieu gratuitement parce que Dieu récompense la fidélité de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire récompense? Proverbe 11, verset 18 dit quoi? Dieu récompense. Voilà ce qui nous mettait dans la course, la récompense. Vas-y, Proverbe 18. Qui a trouvé? Proverbe 11, 18.
Proverbe 11, 18. Le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.
A un salaire véritable. Ça veut dire quoi? Les justes, ceux qui poursuivent la justice ont un salaire. Merci. Il y a un salaire. Lève la main, doit dire, il y a un salaire.
Il y a un salaire.
Je vous annonce de façon solennelle qu'on ne suit pas Dieu en vain. On ne sert pas Dieu en vain. Si vous avez décidé d'être chrétien, il y a quelque chose comme récompense à la fête.
Amen.
La Bible dit de Jésus, pour la joie qui lui était offerte, il a souffert. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait que Jésus a supporté la souffrance et allé jusqu'au bout de sa mission? La joie qui lui était offerte. Parce qu'après la mission, il y avait la récompense. Et Dieu n'est pas ingrat pour ne pas reconnaître la fidélité et ce que tu es en train de faire comme travail. Dieu récompense la fidélité. Et tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui sont d'accord pour s'investir, toutes ces personnes-là qui viennent répéter tous les jours pour chanter, pour que tu puisses être heureux là, ne crois pas que c'est en vain. Non, non, non. Dieu va leur donner autant qu'on veut à chacun leur récompense. Ils seront face à un danger. Satan va réclamer leur vie. Ils n'ont pas normalement fait ce qu'ils devaient faire. Dieu va checker leur travail. C'est comme là, ils chantent. Ils payent le prix quand même pour aller bénir les autres. Dieu va utiliser ça pour contrecarrer une malédiction, un problème qui devait arriver. Vous savez, il y a trop de choses que Dieu fait pour nous chaque jour. Quand on vous demande d'être consacré, de servir Dieu, c'est parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, il y a un salaire, dis un salaire.
Il y a un salaire.
On ne sert pas Dieu en vain. Tu auras la bonne santé, tu auras ce que tu cherches, Dieu sera avec toi, tu seras un bâtard. Il y a une récompense. Et comme les gens ignorent la récompense, ils se disent servir Dieu, bon, c'est pas aller courir, faire des trucs. Non, non. Quand quelqu'un est dans l'église et puis il ne sait pas, il ne fait rien, il dit non, moi je ne fais rien. Je suis juste un frère, je suis dans l'église. On dit fais ça pour Dieu, non. Investis pour Dieu, non. Il y a des gens, nous sommes en train de construire en ce moment un temple. Il y a des gens qui ne sont même pas concernés. Ils disent, oh, il paraît que l'église est en train de construire un grand temple. On montre le projet souvent sur le diapo. Comme n'est pas arrivé mon diapo aujourd'hui. J'allais me demander de me montrer le projet. Hein? On dit non, 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 pasteur, ça là c'est trop grand. Ça c'est super. Il y a un gars qui m'a dit ça c'est super marché, pasteur. Ça c'est l'État qui va construire. Je dis, il n'y a pas de problème. L'État va construire, mais nous on a la foi en Dieu. On va aller jusqu'à où notre foi va nous envoyer. Mais dans tous les conflits qu'on fait au Seigneur, on a commencé, on n'avait pas rien. Mais on est dedans. Mais il y a des gens qui ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une récompense. Quelle est la récompense? De voir des hommes sauvés. De voir des gens qui un jour vont aller dans ce temple-là et vont entendre l'évangile. Tu es assis là aujourd'hui, tu es content. Qui n'est pas content d'être assis là? Mais à un moment donné, c'était comme ça. Il y a la chaleur. J'ai dit à cette personne, j'ai dit, écoutez, aidez-nous. On va mettre l'esprit partout. Ils ont payé le prix. Mais aujourd'hui, quand ils sont assis, ils doivent être heureux de voir que ce qu'ils ont fait bénéficie à plusieurs. C'est ça dans la vie. Un homme qui n'a pas sa vie, qui profite aux autres, est un homme inutile. Et je te dis, si tu es là et ta vie est inutile, parce qu'elle ne profite à personne, alors change. Rends-toi utile. Fais quelque chose pour que d'autres personnes soient heureuses. Viens balayer l'église, lave l'église, pour que les gens viennent et qu'ils s'assoient dans la propriété. Identifie quelque chose et fais la chose. Sois utile pour que ta vie bénéficie aux autres. Il y a une récompense. Est-ce qu'on peut dire ensemble récompense? Et Dieu te récompensera. Je déclare que Dieu te récompensera. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Amen. Il exaucera tes vœux les plus profonds. Amen. La mort ne te surprendra jamais. La honte ne sera jamais ton partage. Bientôt on s'en accra. C'est quand? Le 25. Dimanche prochain, je vous le dis, on s'en va à Accra. J'espère que tout le monde a réglé. Et on a dit, on va faire une conférence internationale. Bien sûr, on ne va pas dimanche matin, on fait le culte. Donc on vient à l'église. Après le culte, on s'en va à Accra. On revient le vendredi soir, on quitte Accra pour Abidjan. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun dimanche qui est pris. On a une conférence internationale avec le docteur Mensah Otabi et Mathieu Achimolo et Tudor Bismarck. C'est des hommes de Dieu incroyables que Dieu a bénis. Et nous avons demandé à toute l'église. J'étais à Accra. Tu sais pas, j'ai voyagé, je suis arrivé. Quand là, Je dis, je suis allé le rencontrer, on a parlé. Il m'a dit, pasteur, on s'attend à 60 personnes qui vont venir, à peu près 60. Là, on a 43 personnes qui sont inscrites. Tous ceux qui sont inscrits là, il est interdit de revenir en arrière. Tu dois partir. Parce que, non seulement, pourquoi tu dois partir? Déclare. Que j'accomplirai ma destinée. Je réussirai. Je n'ai pas le choix.
Je dois le faire.
J'ai un nom à glorifier. C'est le nom de Jésus. La honte ne passera pas par moi. Je déclare. Pour cette Côte d'Ivoire, j'achèverai mes jours. Dans ce monde, j'achèverai mes jours. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Je marquerai mon histoire. Mes empreintes marqueront cette terre. Les hommes après moi, après mon passage, parleront de mon histoire. Je le déclare.
La direction dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, nous allons quelque part. Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi. Et je voulais encore vous poser cette question-là. Jusqu'à où vous êtes prêt à envoyer votre vie? Si vous pouvez répondre à cette question-là, alors mettez en pratique tous les éléments qui ont été enseignés dans ce message. Vous verrez que quelque chose d'important est sur le point de se passer dans votre vie. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie que personne ne vous méprise. Allez, explorez, gagnez et avancez. Car le monde attend simplement votre manifestation. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché par ce message, écrivez-nous, visitez notre site web et je vous remercie.